ta gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire.
Qui est dans ta présence écrit Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Nous nous courbons devant toi, car tu es notre Dieu. Tu nous as rachetés par ton sang précieux. Nous t'appartenons désormais. Tu as fait de nous un peuple de rachetés, des rois et des sacrificateurs pour Dieu, ton Père, oh, nos cœurs t'adorent en cette soirée. Merveilleux Maître, oh, à toi notre adoration. Nous ne voulons que toi ce soir. Et Seigneur, toi seul peux satisfaire nos besoins, nos aspirations les plus profondes. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Comme nous t'avons servi dans l'adoration, tu viens maintenant nous servir au travers de la prédication de ta parole. Tu veux nous faire du bien. Tu veux bénir chaque personne ici, Seigneur. Tu ouvres nos cœurs, ouvre aussi mon intelligence spirituelle, afin que je puisse saisir ta pensée. Car sans ton esprit, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Nous sommes ici pour te glorifier. Alléluia. Car toi seul en es digne. Au siècle des siècles. Et que tout le peuple du Seigneur dise Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous allons nous attendre au Seigneur. Je suis sûr qu'il veut nous faire du bien par son esprit, par sa parole. Il nous a déjà fait du bien. Et il veut continuer de le faire. Notre seule prière est que le nom du Seigneur soit glorifié et que son peuple soit édifié. Alléluia. Ainsi nous nous attendons à lui et je suis sûr que Dieu veut continuer de bénir chacun d'entre nous. Alléluia. Lorsque nous sommes prêts à le bénir, il est toujours prêt à nous bénir, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Ça, c'est une loi spirituelle. Si vous voulez que Dieu vous bénisse pendant ces réunions, bénissez-le. Bénissez-le, et je suis sûr que celui qui bénit le Seigneur sera béni en retour. Alléluia. C'est une loi spirituelle. Que son nom soit béni. Pour cette première soirée, j'ai pensé qu'il était bon que nous voyions un aspect particulier du ministère de notre Seigneur Jésus, comme Pâques est là demain, la résurrection, la puissance de vie de notre Jésus. Comment Jésus est-il parvenu jusqu'à cette résurrection? Quel est l'esprit qui animait notre Maître? Quel était le secret du ministère fructueux de notre Seigneur? Quel était son secret? Comment a-t-il pu persévérer malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les tentations? Nul ne pouvait arrêter notre Maître. Quel était donc l'esprit qui l'animait? Quel était cet esprit qui l'animait? Nous allons voir cela dans l'Évangile selon Matthieu, si vous avez vos Bibles, au chapitre 20, Matthieu 20. Ce sont des versets bien connus, mais qu'il est bon de lire et de relire, surtout pendant cette période de Pâques. Matthieu, chapitre 20. À partir du verset 20 jusqu'au verset 28, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » ?»« Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Et le verset 28 résume précisément l'esprit dans lequel Jésus a agi jusqu'au bout. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà dans ce verset le secret du ministère de notre Seigneur Jésus. Il avait un esprit de serviteur. Et c'est parce qu'il avait cet esprit de serviteur qu'il a pu servir son Père jusqu'au bout, jusqu'à la mort même de la croix. C'est ainsi que le Maître aussi veut que ses disciples le servent aussi dans ce même esprit. J'aimerais donc qu'on voit ensemble le secret d'un ministère fructueux. Ce que le Seigneur a été, il veut que nous le soyons aussi. Naturellement, nous ne serons pas parfaits comme lui, mais l'esprit dans lequel il a agi, il veut aussi que nous le manifestions. Et seul cet esprit de serviteur nous permettra d'achever la tâche que Dieu confie à chacun d'entre nous. Si nous n'avons pas cet esprit de serviteur, il sera impossible de faire l'œuvre que Dieu nous a donnée. Que le Seigneur renouvelle en nous cet esprit de serviteur. J'aimerais vous donner plusieurs qualités de cet esprit de serviteur. Et tout d'abord, faire cette première remarque pour nous aider à bien comprendre. Il faut faire une différence entre rendre service et être un serviteur. Parce que parfois nous pensons, et parfois très souvent nous pensons que nous sommes toujours de bons serviteurs. Si je vous posais la question, êtes-vous un bon serviteur? Vous seriez le premier à me dire, mais dis donc, mais pour qui tu me prends? Voyons, rien que ta question déjà ne me plaît pas du tout. Il est vrai que nous ne pouvons juger personne, n'est-ce pas? Mais il est bon de voir et de savoir si nous avons véritablement cet esprit de serviteur. Nous pouvons rendre service sans avoir un esprit de vrai serviteur. Beaucoup rendent service, mais n'ont pas l'esprit de serviteur. La preuve. Quelle est donc la différence entre rendre service et être un esprit de serviteur? Quelle est donc la différence? Comment savoir si je ne fais que rendre des services? Comment savoir si je fais cela ou si je suis vraiment un serviteur? La première qualité d'un serviteur est celle-ci, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. La première qualité d'un serviteur, c'est l'obéissance. Un vrai serviteur est obéissant. Il n'est pas digne d'être appelé serviteur s'il n'est pas obéissant. Mais avez-vous remarqué comme moi que nous pouvons rendre des services sans être obéissant? Vous pouvez rendre une multitude de services sans être obéissant au Seigneur. Voilà pourquoi, bien souvent, nous pouvons rendre des services, mais sans avoir l'approbation de Dieu sur notre service. C'est pourquoi nous sommes découragés. Et combien de chrétiens sont découragés dans leur service? Peut-être parce que nous n'avons pas réellement cet esprit de serviteur. Et en vous disant cela, je me prêche à moi-même. Car nous avons constamment besoin d'être renouvelés dans cet esprit-là. Le cœur de l'homme est tellement mauvais, égoïste, qu'il vient toujours polluer ce que Dieu veut faire. Mais si nous voulons réellement plaire à notre Dieu, nous devons manifester cet esprit d'obéissance. Jésus lui-même l'a manifesté. J'ai noté ici plusieurs références. Il y a une première référence qui révèle que Jésus était venu pour obéir. Il n'était venu que pour cela. C'est le secret de son ministère. Dans Jean chapitre 4 et verset 34, nous lisons ceci, ce sont des versets que vous connaissez bien, mais nous allons les lire. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Je relis ce verset. Voici ce que Jésus dit à ses disciples, « Ma nourriture. » Vous vous rendez compte? Sa nourriture, ce qui était sa vie même, sa survie, ma volonté est de faire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà l'esprit dans lequel Jésus agissait. Il n'avait rien d'autre à faire que de faire la volonté de son Père. Car s'il n'était pas obéissant à cela, il aurait été un rebelle. Même s'il avait fait beaucoup de choses et s'il avait désobéi, s'il avait fait quoi que ce soit qui n'était pas en accord avec la pensée de son Père, son œuvre aurait été un échec, n'est-ce pas vrai? Voyons encore une autre référence. Cette fois dans Jean toujours, Jean 5, verset 19. Jean 5, 19 cette fois. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » S'il vous plaît, réalisons ce verset, c'est absolument incompréhensible. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Bien souvent, nous voyons dans la vie de Jésus le côté puissance. Et c'est vrai. Nous voyons le côté extraordinaire, miraculeux, et c'est vrai. Mais nous devons réaliser pourquoi cette puissance, pourquoi cet esprit miraculeux extraordinaire se manifestait. Parce qu'il était pleinement conscient de sa faiblesse. C'est parce qu'il était conscient de sa faiblesse qu'il pouvait faire les œuvres de puissance de son Père. Alléluia! Et voilà pourquoi certains d'entre nous, nous ne sommes pas assez forts, parce que nous ne sommes pas assez faibles. La faiblesse de certains d'entre nous, c'est votre force. Vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Ou je suis trop fort, on est trop fort. Et parce qu'on est trop fort, on ne peut rien faire du tout. On est trop fort. Qui peut dire véritablement dans le fond de son cœur, je ne peux rien faire de moi-même? Pour beaucoup d'entre nous, même si l'onction du Seigneur partait, on continuerait le même travail comme avant, même pour le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Onction ou pas onction, présent du Seigneur ou pas présent du Seigneur, on continuerait la même chose. On ne réalise pas assez notre faiblesse. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Voyez-vous, il était pleinement obéissant et il ne faisait que ce que le Père lui demandait de faire. Il ne faisait pas mille choses, il faisait une chose, la volonté de son Père. Alléluia! Et savez-vous que ce sont ceux qui font la volonté de leur Père qui sont le plus en bénédiction aux hommes? On fait mille et une choses, nous. Mais on ne fait rien de bon qui demeure. L'apôtre Paul disait, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et courant vers ce qui est en avant, il faisait une chose. Et quelle était cette chose? La volonté de son Père. L'obéissance à notre Père. Voilà le secret de la vie de Jésus. Alléluia. Ça, la puissance de Dieu se manifestait au travers de sa faiblesse. Un autre verset encore pour terminer, Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voyez-vous, la volonté de Jésus n'était pas anéantie, attention. Parce qu'en prêchant un tel message, certains risquent de prier, oh mon Dieu, anéantis ma volonté, détruis ma volonté,
Et même certains disent, brise ma volonté. Il y a même des chants qui disent cela, brise ma volonté. Dieu ne brisera jamais ta volonté. Ta volonté doit être soumise à la volonté de Dieu. Ne priez jamais, Seigneur, brise ma volonté. Savez-vous que c'est le diable qui brise la volonté de quelqu'un? Mais cette volonté doit être soumise à notre Père. Et quand quelqu'un essaie de briser la volonté d'un autre, ce n'est jamais, jamais l'œuvre du Saint-Esprit. Car Dieu ne vient jamais briser la volonté de quelqu'un. Mais si vous remarquez comment, par exemple, les religions orientales se manifestent, vous voyez toujours qu'il y a comme une violence qui est faite à la volonté de l'individu. Et le fait que la volonté de quelqu'un est violentée, forcée, cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne force jamais quelqu'un. Dieu n'impose jamais rien à quelqu'un. Mais notre volonté doit être soumise à la sienne. Je suis venu pour faire non ma volonté, mais ta volonté. Dites, Seigneur, non ma volonté. Je veux me soumettre à toi et faire ton œuvre. Ton œuvre. Alléluia. Et savez-vous que c'est lorsque on est dans cet esprit-là que Dieu peut réellement nous utiliser et qu'en peu de temps, nous pouvons faire beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que dans les Actes des Apôtres, la période des Actes des Apôtres se résume à peu près à une génération, une trentaine d'années. Et en une trentaine d'années, ils ont couvert le monde d'alors. Et pourquoi est-ce qu'il y avait une telle puissance, une telle manifestation de la gloire de Dieu? Parce qu'ils faisaient ce que Dieu leur avait demandé. Alléluia! Et en peu de temps, vous pouvez faire beaucoup de choses. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah, on est prêt toujours à se sacrifier, mais à obéir. Pas toujours. Et c'est lorsque nous sommes dans cet esprit-là que Dieu peut nous utiliser. Je raconte souvent cette histoire que j'ai lue qui nous révèle un petit peu la leçon de l'obéissance ou l'importance de l'obéissance. C'est au Moyen-Orient, cela concerne le dressage des chevaux arabes. Savez-vous comment on les dresse, ces chevaux? Il y a toute une technique pour dresser ces chevaux-là. Le dresseur, pendant plusieurs semaines, dresse donc ce cheval. Et finalement, il y a un test, c'est le dernier test, pour savoir si vraiment le cheval est dressé, est prêt à servir son maître. Il y a un test final. Et quel est ce test final? C'est celui-ci. Après donc toutes ces semaines d'éducation, pendant 2 jours, son maître ne lui donne plus à boire, ni à manger, rien du tout. Et au bout de 2 jours, le maître libère son cheval et lui montre une belle petite rivière qui est en train de couler. Et quand le cheval voit cette rivière qui est là, tout à côté de lui, et que pendant 2 jours, il n'a pas bu, alors qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ce cheval fonce sur cette rivière pour aller boire. Alors le cheval, quand il voit ça, oh, formidable, pendant 2 jours, vous vous rendez compte, c'est quelque chose. Il s'approche. Et au moment où il met le museau dans l'eau, le maître donne un coup de sifflet. Pring! Et à ce moment-là, le cheval doit s'arrêter. Le museau presque dans l'eau, il doit s'arrêter. Et s'il ne s'arrête pas avant de mettre le museau dans l'eau, il n'est pas dressé. Il n'est pas dressé et il doit recommencer. C'est vraiment l'obéissance totale, parfaite. Et savez-vous que Dieu est en train, au travers de toutes nos expériences, de toutes nos difficultés, est en train de nous former pour obéir comme cela? Et lorsque nous sommes prêts à obéir, lorsqu'il nous le demande, alors et alors seulement nous sommes prêts pour le servir. Un esprit obéissant. Que le Seigneur renouvelle en nous cet esprit-là. Maître, parle, ton serviteur écoute. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne sommes plus des maîtres, nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des maîtres. C'est nous qui donnons des ordres au Seigneur. Attention, Seigneur, il faut que ça marche, hein. Et si tu n'exauces pas ma prière tout de suite, eh bien, je te verrai une autre fois, en tout cas pendant au moins 2-3 mois, tu ne viendras plus à l'église. Et surtout, Seigneur, puisque tu m'as fâché un petit peu, il n'y aura surtout rien du tout à la collecte. Ah oui, désolé, il n'y aura rien à mettre à la collecte. Il faut bien dire au Seigneur que ça ne s'est pas fait comme on le voulait. Mais beaucoup d'entre nous, nous parlons exactement comme un maître, et comme si le Seigneur était un serviteur. Et on est étonné que ça ne marche pas. On est étonné que ça ne va pas. Qui est le maître? Qui est le serviteur? Nous devons prendre notre place comme serviteur. Il est lui le maître. Maître, que ta volonté soit faite. Et laissez-moi dire une chose, la volonté de Dieu n'est jamais une volonté pour nous anéantir, pour nous détruire, pour nous rendre malheureux. Ça, c'est le diable qui veut mettre ses pensées en nous. La parole de Dieu nous dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Alléluia! C'est parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu que nous sommes malheureux. Mais nous ne serons jamais malheureux si nous faisons la volonté de Dieu. Alléluia! Mais c'est l'ennemi qui vous met ses pensées en nous, en lui disant, attention, tu fais la volonté de Dieu, tu seras un pauvre type, une pauvre fille, tu seras malheureux. Tu vas faire une dépression. Non, c'est en obéissant que tu seras délivré de ta dépression. Alléluia! Voilà l'esprit de Jésus. Voilà l'esprit qui l'animait, l'obéissance. Voilà l'esprit d'un vrai serviteur. Ces choses sont rares maintenant. Nous vivons un siècle où chacun revendique, chacun demande. Seigneur, si tu me bénis, alors je te bénis. Vous voyez, c'est exactement l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si tu me bénis, je te bénis. Voilà comment certains prient. Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai beaucoup. Ah oui, c'est pas difficile. Si vous donnez 10 millions à un païen, naturellement qu'il pourra donner quelque chose aussi à Dieu. Même un païen, il peut faire cela. Mais donner d'abord, sans rien demander pour soi, bénir sans rien désirer pour soi, ça c'est divin. Faire la volonté de Dieu. Un esprit obéissant. J'ai noté une deuxième qualité d'un vrai serviteur. C'est un esprit compatissant. Un serviteur, l'esprit de serviteur, c'est un esprit de compassion. Et jamais nous ne pourrons assez redire combien nous avons besoin de cet esprit de compassion, n'est-ce pas vrai? Un jour, j'ai lu cette pensée que j'ai notée dans ma Bible et que j'ai trouvée formidable justement au sujet de la compassion. Voici ce qu'un évangéliste disait. Nous ne pouvons pas guérir les plaies que nous ne ressentons pas. Vous ne pouvez pas guérir les plaies que vous ne ressentez pas. Et il y avait aussi cette autre pensée, Jésus a ressenti chacune de nos plaies, c'est pourquoi il peut toutes les guérir. Alléluia. J'ai trouvé ça formidable. Voilà l'esprit de compassion. Voilà l'esprit du vrai serviteur. Ressentir les plaies de l'autre pour pouvoir les guérir. Mais vous ne pourrez jamais guérir les plaies de quelqu'un que vous ne ressentez pas, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas nous utiliser parfois, notre cœur est trop dur. Mais attention, dans la compassion, il ne faut pas confondre compassion et sympathie. Dans la compassion, il y a deux dangers, il y a deux extrêmes. Il y a premièrement celui qui fait souffrir les autres. Ça, c'est un extrême terrible, celui-là. Loin de ressentir la souffrance des autres, il les fait souffrir. Mais il y a l'autre extrême aussi. Il y a l'autre personne qui dit qu'il veut souffrir à la place de l'autre. Alors ça, ce n'est pas biblique. Certains, à cause de la compassion, pensant qu'ils doivent souffrir à la place d'une autre personne. Ça, ce n'est pas la vraie compassion. Ça, c'est du sentiment humain. Ce n'est jamais la vraie compassion. Il n'y en a qu'un qui a souffert à la place des autres, c'est Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nous dit le prophète Ésaïe. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et c'est dans ces meurtrissures que nous avons la guérison. Alléluia! Voilà la vraie compassion. C'est Jésus qui a souffert à notre place. Et maintenant, la compassion que Dieu nous demande, c'est de souffrir avec l'autre. Voilà ce que veut dire avoir compassion. C'est souffrir avec quelqu'un. Pas à sa place, tu ne pourras jamais, un seul a pu le faire. Mais souffrir avec l'autre. D'ailleurs, je crois qu'en allemand, compatir veut dire souffrir avec. J'ai noté deux références que vous connaissez bien à ce sujet-là. Romains 12, 15. Deux références. Romains 12, 15, vous savez ce qu'il est dit ici. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà la vraie compassion divine. C'est se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est pleurer avec ceux qui pleurent. Si vous arrivez à faire cela, sincèrement, alors, la compassion divine est en vous. Savez-vous qu'il est dit ici qu'il faut d'abord se réjouir avec ceux qui se réjouissent ? Avant de pleurer avec ceux qui pleurent. Pourquoi cela? Parce qu'il est plus difficile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent que de pleurer avec ceux qui pleurent. Je crois que vous pouvez dire alléluia, mais difficilement. Vous pouvez quand même le dire, ça fait rien. Il est plus difficile de se réjouir avec quelqu'un qui se réjouit. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est béni, qui se réjouit, je ne sais pas ce qui se passe en nous, il y a tout de suite quelque chose qui se bloque en nous. C'est pas vrai. De toute façon, t'es pas béni, c'est pas vrai. Si c'est une guérison, si c'est quelque chose d'autre, non, 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 ça tiendra pas, c'est tout du cinéma. On a de la peine à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pleurnicher, oui, on arrive, ça. C'est même pas pleurer, c'est pleurnicher, excusez-moi, oui. Souvent, on pleurniche avec ceux qui pleurent. Ah oui, ah oui. Alors oui, il y a quelques larmes qui tombent, tout ça, oui, d'accord. Mais c'est très souvent très superficiel. Quand nous arrivons à nous réjouir avec quelqu'un qui se réjouit, alors nous pleurons réellement avec ceux qui pleurent. Voilà ce que Jésus manifestait, voilà ce que nous devons manifester aussi. Alléluia! Et il n'y a pas besoin d'attendre 107 ans pour cela. Pendant cette convention, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Alléluia! Même si tu n'as pas envie de te réjouir, il y a l'autre qui se réjouit à côté de toi, mais au moins par amour pour lui, réjouis-toi. Au moins par amour pour lui. Tu le regardes et tu lui dis, bon, bah, je vais être un peu avec toi aujourd'hui. Allez, voilà, puisque j'ai pas envie de me réjouir, mais pour toi, je vais le faire. Ça, c'est déjà de la compassion. C'est déjà de la compassion. Alléluia. Je vais me réjouir avec toi. Se réjouir avec ce que... Je vous le dis franchement, j'ai aussi de la peine parfois. Et alors, c'est constamment une bataille. Allez, tais-toi, mets ton orgueil un peu de côté. Réjouis-toi. C'est pourquoi l'apôtre dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le... Répète, on a besoin de le réentendre parce que ça pénètre pas, ou si ça pénètre, ça ressort tout de suite. Ça ressort tout de suite, on n'arrive pas à garder cela. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous aurons grandi dans la compassion, rien que ces quelques heures que nous passerons ensemble, si nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Ici, maintenant, réjouis-toi. Détourne tes regards de toi-même et réjouis-toi avec un autre. Tu vois quelqu'un se réjouir, et bien vas-y, joins ta voix à la sienne et dis-lui alléluia, merci Seigneur, je me réjouis toi avec toi mon frère, tu sais merveilleux, alléluia. C'est la compassion, un esprit compatissant. Combien nous en avons besoin aussi. Ô Seigneur, renouvelle en nous cet esprit de compassion. Vous ne pouvez pas guérir les plaies que vous ne ressentez pas. C'est pourquoi le Seigneur permet que nous passions par certaines difficultés pour comprendre aussi les autres, n'est-ce pas vrai? Combien de fois nous avons des chrétiens qui sont là tout à fait insensibles, en dehors de la réalité? Ils ne comprennent pas certains qui passent par certaines difficultés en disant oh, mais non, je te comprends pas. Là, tu devrais être vainqueur, tu devrais dire Alléluia. Je te comprends pas. Mais oui, tu comprends pas pourquoi? Parce que tu n'es pas passé par là. Parce que tu ne ressens pas sa plaie. Bien sûr, tu ne peux pas le comprendre puisque tu n'es pas passé par là. Chers amis, si Dieu nous fait passer par certains chemins difficiles, il a un but. C'est pour mieux comprendre les autres. Amen. C'est pour mieux les comprendre. Et si tu n'es pas passé par là, tu ne pourras pas aider les autres. Dieu t'envoie du monde. Dieu te place des personnes sur ton chemin, mais tu les renvoies vides. Non seulement tu les renvoies vides, mais tu les renvoies avec un esprit de condamnation du jugement. Encore pas-tu marcher. Un esprit compatissant. Oh, combien nous en avons besoin. Si l'Église manifestait cela, oh, combien de choses se passeraient. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Oh, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh, l'amour de Dieu. Réjouissons-nous pendant ces quelques jours. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Faisons un effort, même si nous n'avons pas l'habitude. Sortons de nos habitudes. Réjouis-toi. Avant de te réjouir, avant que Dieu te réjouisse, réjouis-toi d'abord avec quelqu'un d'autre. Amen, ça c'est bien, ça aussi. Dieu brise un peu ton égoïsme, ton orgueil. Réjouis-toi avec quelqu'un d'autre. Une troisième qualité dans les serviteurs, c'est l'humilité. L'humilité. Un serviteur qui n'est pas humble, il détruit tout son travail. D'où l'importance de manifester cet esprit d'humilité. Apprenez de moi, dit Jésus, je suis doux et humble de cœur. Mais là encore, nos cœurs sont tellement durs que cette humilité, nous avons de la peine à la manifester. Car parfois nous pensons être humbles. Nous pensons être humbles. Vous savez, l'humilité est une attitude du cœur. Extérieurement, vous pouvez paraître humble, mais intérieurement être rempli d'orgueil. Savez-vous qui est véritablement humble? C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais vous allez voir. Qui est véritablement humble? C'est celui qui est constamment brisé à cause de son orgueil. C'est celui qui est constamment repris dans son cœur à cause de son orgueil. Celui qui est repris constamment et qui réalise, oh oui, vraiment, je suis un homme ou une femme orgueilleuse. Celui-ci, celle-là, est une femme et ou un homme humble. Tandis qui est l'orgueilleux? C'est celui qui se croit humble. Voilà l'orgueilleux. Il est orgueilleux de son humilité. Et ça, je vous assure, c'est quelque chose de terrible à voir. Être orgueilleux de son humilité. C'est quelque chose de terrible. C'est quelqu'un qui n'a jamais réalisé qui il était. C'est pourquoi il y a trois choses qui nous garderont toujours humbles. Et je terminerai avec cela pour ce soir, pour ne pas être trop longtemps pour cette première soirée. Mais il y a trois pensées qui doivent constamment être devant nous pour rester humbles. Car si nous ne resterons pas humbles, nous ne pourrons pas achever la tâche que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Combien ont bien commencé? Combien ont été bénis? Et combien ont reçu des grâces extraordinaires? Mais maintenant, il n'y a plus rien du tout. Et c'est l'orgueil qui a détruit ces personnes. Et nul n'est à l'abri de l'orgueil. Si tu n'as jamais combattu avec l'orgueil dans ton cœur, alors c'est que tu es peut-être le pire des orgueilleux. Trois choses nous garderont humbles. Et l'apôtre Paul le savait, cela. La première chose que nous devons constamment nous rappeler, c'est nous rappeler ce que nous étions avant de nous convertir. Ah, il est bon de se rappeler cela. L'apôtre Paul le fait dans son épître à Timothée. 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Versets 12, 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par l'ignorance, dans l'incrédulité. Voyez-vous, l'apôtre était conscient de ce qu'il était avant sa conversion. Beaucoup d'entre nous, depuis notre conversion, on est devenus des anges. On ne se rappelle plus du tout. Je ne veux pas dire qu'il faut être constamment harcelé parce que vous étiez avant, pas du tout. Mais il est bon de se rappeler, comme Paul, il se rappelait qu'il était un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Une telle attitude le gardait toujours humble. Une telle attitude le gardait humble. C'est pourquoi il dit, mais la grâce de Dieu s'est manifestée envers moi. Et c'est pourquoi il dit, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Dont je suis le premier. J'ai noté ici l'humilité de l'apôtre Paul. Au début de son ministère, il disait, dans 1 Corinthiens 15, 9, je suis le moindre des apôtres. Voilà comment il a commencé son ministère, en parlant qu'il était le moindre des apôtres. Un peu plus tard, dans son ministère, dans Éphésiens chapitre 3, verset 8, il est dit, « Je suis le moindre de tous les saints. » Vous voyez, il commence à descendre dans son estime à lui. Il était d'abord le moindre des apôtres, maintenant il est le moindre de tous les saints. Et vers la fin de sa vie, puisque l'épître à Timothée, c'est l'épître que Paul a écrite vers la fin de sa vie, et voici ce qu'il dit dans 1 Timothée 1, 15. Je suis le premier des pécheurs. Premier des pécheurs. Premier des pécheurs. Il ne disait plus qu'il était le moine des apôtres vers la fin de sa vie. Il a tellement vu la grâce de Dieu. Il a tellement réalisé que tout cela était miséricorde. Et c'est ainsi qu'il est resté humble. Et qu'il a pu achever sa tâche. Et lui-même disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. Alléluia! Et il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Mais rappelle-toi qui tu étais. Rappelle-toi un petit peu quand ton cœur s'enorgueillit, quand tu es prêt à te gonfler un peu trop, rappelle-toi qui tu étais. Ah, moi j'étais quelqu'un de formidable. Ah bon? Alors c'est que tu n'étais pas converti alors. Ah, mais moi j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un de formidable. Et il y a des gens aussi comme cela. Ils ont toujours été formidables. Ah bon, alors il y a quelque chose qui va certainement pas. Ah, il y a quelque chose qui joue plus. Parce que quand on vient au Seigneur, il n'accepte pas des gens formidables, il accepte des pécheurs. C'est pas des gens formidables qu'il fait grâce, c'est à des pécheurs. Alléluia! À des pécheurs, réalise qui tu étais. Réalise la passion qui te tourmentait. Réalise ce que tu as fait. Et réalise combien la grâce de Dieu était grande pour toi. Et maintenant, accepte son pardon et reste dans l'humilité. Alléluia. Une deuxième chose maintenant pour nous garder humbles, c'est que nous devons nous rappeler que les dons que nous avons reçus, nous les avons reçus par grâce. Ça, c'est quelque chose qui nous garde dans l'humilité. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais rien reçu? Mais beaucoup d'entre nous, au contraire, quand nous recevons un don, nous pensons combien nous sommes formidables. C'est exactement la réaction inverse qui se passe. Oh, mais si Dieu m'a béni, si Dieu m'a donné le parler en langue, si Dieu m'a béni, m'a guéri même, si Dieu m'a... Mais c'est que je suis formidable! Ah oui? Ah, c'est parce que tu es formidable? Eh bien, c'est parce que tu n'as rien compris. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais jamais rien reçu? Tous les dons de Dieu sont par grâce. Alléluia! Afin que personne ne se glorifie. Et si personne ne se glorifie, alors tu peux rester dans l'humilité. Le don que Dieu t'a donné n'est pas pour te vanter, mon ami. Jamais. Et si tu crois que si tu as reçu un don parce que tu es meilleur qu'un autre, alors ne t'étonne pas que, au bout d'un certain temps, ce don ne se manifeste plus avec la même onction, avec la même autorité, avec la même puissance. Seigneur, c'est par grâce. Je ne mérite rien. J'y crus, tout simplement. Et cela vous garde humble. 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 Alléluia. Une troisième vérité maintenant. Pour rester humble, les dons que nous avons reçus ne sont pas pour nous-mêmes, mais pour l'édification de l'Église. Si nous comprenons cela, nous resterons humbles aussi. Ce que tu as reçu, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est pour édifier les autres. C'est pas pour dire aux autres, voilà, moi, hein, comme un diplôme personnel. Il y en a beaucoup qui sont diplômés, c'est pourquoi ils sont paumés. Il y a beaucoup de diplômés qui sont paumés. Les dons que nous avons reçus, si tu recherches des dons, dit l'apôtre Paul, que ce soit pour l'édification de l'Église. Et plus nous désirons l'édification des autres, plus Dieu vous bénira de dons spirituels. Alléluia! Si tu veux que Dieu manifeste d'autres dons spirituels dans ta vie, voilà la clé. Tu dois désirer dans ton cœur être une bénédiction pour les autres. Rien pour toi. Non pas pour que tu dises, voilà tel don, voilà ce que j'ai reçu, et se vanter de cela, comme malheureusement beaucoup le font. Et c'est ce qui repousse beaucoup d'autres même. Les dons sont pour édifier les autres, pour bénir les autres. Et si nous sommes dans cet esprit-là, nous resterons humbles. Et plus nous serons dans cette humilité, plus Dieu nous bénira et nous rendra en bénédiction. Alléluia. Ne l'oubliez pas, voilà trois qualités qui se trouvaient dans la vie de Jésus. Un esprit d'obéissance. Un esprit de compassion et un esprit d'humilité. Cultivons ces fruits en nous et je vous assure, Dieu nous donnera un ministère, Dieu nous donnera une tâche et nous l'achèverons cette tâche. Car ce n'est pas le tout de commencer quelque chose, il faut encore finir ce travail, n'est-ce pas vrai? C'est pas parce que quelqu'un commence bien qu'il finira bien, ça ce n'est pas vrai du tout. Certains commencent très bien et finissent très mal. L'Épître aux Galates est là pour nous donner cette leçon. Paul reprenait les Galates en leur disant, vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous terminez par la chair. Nous pouvons bien commencer, très mal terminer. Mais l'autre miracle est celui-ci, nous pouvons mal commencer et très bien terminer. C'est encourageant, n'est-ce pas? Alors, même si tu réalises que tu n'as pas très bien commencé, tu peux encore bien terminer. Alléluia. Une seule prière qui te coûtera, car c'est ce qui te coûte qui aura de la valeur aux autres, ne l'oublie jamais. Si tu donnes aux autres quelque chose qui ne te coûte pas, alors cela n'a aucune valeur aux yeux des autres et aux yeux de Dieu. C'est ce qui te coûte qui a de la valeur aux autres et à Dieu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Servir, c'est donner sa vie. Vous pouvez donner la vie sans donner sa vie. On peut faire du bien aux autres, on peut rendre service sans être un vrai serviteur. Vous pouvez rendre service avec un esprit orgueilleux. Vous pouvez rendre service avec un cœur plein de dureté, sans amour. Vous pouvez rendre service avec un cœur rebelle, désobéissant. Ne rendons plus de service, mais soyons de bons serviteurs et de vrais serviteurs. Et sa bénédiction nous accompagnera. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Ô Seigneur Jésus, nous te louons et nous te bénissons pour ta parole. Tu brosses devant nous l'esprit dans lequel tu as vécu sur cette terre. Et tu nous appelles à te suivre, Seigneur. Et nous voulons te suivre jusqu'au bout. Et Seigneur, toi-même, tu le dis, ce que tu as dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Ce que tu as commencé en nous, tu l'achèveras, Seigneur. Car tu nous aimes et tu veux nous rendre utiles. Tu veux nous rendre en bénédiction. Mais tu veux faire une œuvre profonde. Non pas une œuvre superficielle en nous, tu veux changer nos vies. Si nous voulons changer les autres, nous ne pouvons pas, Seigneur, apporter un changement aux autres. Si ton œuvre en nous est superficielle, nous voici, comme tu l'as dit autrefois à tes disciples et à tes apôtres, nous voici, Seigneur, nous voulons avoir cet esprit de serviteur. Prends ma vie. Prends notre vie. Alléluia. Et comme tu l'as dit bien souvent, que ta volonté soit faite et non la nôtre, et non la mienne. Et comme Samuel, Maître parle, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, un esprit de serviteur. Un esprit de vainqueur, car ce sont les serviteurs qui vaincront. Alléluia. Merveilleux Sauveur, nous voici, dès cette première soirée, nous voulons te suivre, t'obéir et suivre tes traces. À toi soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Restons quelques instants dans la prière maintenant. Laissons l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs. Et s'il nous a parlé, il nous demande qu'une chose, obéir. Voilà le test d'un vrai serviteur. C'est l'obéissance. Obéissant. Et l'obéissance entraînera toujours une bénédiction. Alléluia. Merci, Seigneur. Restons dans le recueillement, dans la prière. Et répondez-lui maintenant dans vos cœurs. C'est à vous de lui répondre. Il vous a parlé. Répondez-lui. Et il vous répondra ensuite. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merveilleux. Béni sois-tu, Seigneur. Agneau de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton agile, toujours plus comme toi. un esprit de consécration. Levons-nous pour cela, s'il vous plaît, et nous terminerons la réunion comme cela. Chantons-le de tout notre cœur. Alléluia. Gloire. Alléluia.
Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême.
Consécration. Levons-nous pour cela.